Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. La liberté de recours à l'interruption volontaire de grossesse sur le point d'être inscrite dans la Constitution, une première mondiale. Stéphane Robert est à Versailles où le Parlement, réuni en congrès, s'apprête à voter. La Cour des comptes dénonce des faits graves concernant le comité de prévention de la radicalisation. Elle pointe des problèmes de gouvernance et des manquements financiers. Anne Fauquemberg nous expliquera lesquels. Un projet d'attentat djihadiste déjoué par la police belge, une salle de concert était visée. Nous joindrons Angélique Bouin à Bruxelles. Enfin, comment soutenir la pêche durable et être sûr que nous ne contribuons pas à la surpêche? Nous creuserons cette question avec Annabelle Grelier dans la chronique Demain l'écho. Le cadre imposant du château de Versailles souligne la solennité du moment. Le Parlement, réuni en congrès, s'apprête à faire de la France le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Le vote n'a pas encore eu lieu, mais le texte ayant déjà été approuvé par les sénateurs et les députés, on n'attend pas de surprise. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes au château de Versailles où le Premier ministre Gabriel Attal est venu accompagné de Jean Veil, l'un des fils de Simone Veil qui avait porté la loi légalisant l'avortement en 1974. Le chef du gouvernement a présenté le vote d'aujourd'hui comme l'aboutissement d'un long combat.
Oui, dès que la séance s'est ouverte aux alentours de 15h30 tout à l'heure, on a senti le poids de l'histoire, les visages étaient graves et le moment solennel. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a d'abord pris la parole en tant que présidente du Congrès cet après-midi.
Mesdames et messieurs les membres du Congrès, pour la première fois de notre histoire, le Congrès du Parlement est présidé par une femme. Nous nous apprêtons à faire franchir à notre pays, ensemble, un nouveau pas sur le chemin des droits des femmes. Vous comprendrez alors que je sois fière de présider le Congrès du Parlement.
Ce fut ensuite au tour du Premier ministre, Gabriel Attal, qui a rappelé le long combat féministe pour en arriver à ce jour du 4 mars 2024.
L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la détresse qu'ont pu connaître ces femmes, privées de la liberté de disposer de leur corps des décennies durant. Mais le frère que je suis, le fils que je suis, l'ami que je suis, le Premier ministre que je suis retiendra toute sa vie la fierté d'avoir été à cette tribune en ce jour.
Puis Gabriel Attal a longuement fait applaudir Simone Veil, qui a, dit-il, tenu bon pour faire voter sa loi face aux critiques. Ensuite, et depuis un peu plus d'une heure maintenant, on est passé aux explications de vote. Avec une gauche, à l'image de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, qui ne cache pas sa joie.
Quelle victoire !
Oui, c'est une victoire ! N'ayons pas peur des mots.
Et puis une droite derrière le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, qui se fait conciliant.
L'IVG était-il aujourd'hui en danger dans notre pays au point qu'il faille l'inscrire dans la Constitution? On pouvait en débattre. Mais il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité des députés des Républicains votera pour cette modification de la Constitution.
Les explications de vote se sont achevées il y a quelques minutes. Les 925 parlementaires sont tous maintenant partis voter dans une salle annexe à celle du Congrès. Le résultat de ce scrutin sera connu vers 18h30 dans une demi-heure.
Stéphane Robert en direct du château de Versailles avec Benjamin Thuot à la technique. Versailles où est organisée une manifestation contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les organisateurs revendiquent plus de 1000 participants à cette marche pour la vie. Ils sont plutôt 650 selon la police. Le gouvernement s'attaque à l'ultra-fast fashion. L'exécutif va soutenir la proposition de loi proposée par une députée Horizon pour pénaliser financièrement les enseignes et sites de e-commerce de mode très éphémère. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a fait cette annonce ce matin alors que le texte arrive en commission jeudi. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
En plus de la pénalisation des entreprises, cette proposition de loi prévoit une meilleure information à destination des consommateurs, mais aussi l'interdiction de la publicité pour les produits de l'ultra-fast fashion, et c'est visiblement ce qui fait le plus débat politiquement.
Oui, c'est pourtant l'un des axes majeurs sur lesquels il faut agir, insiste la députée Horizon Anne-Cécile Violent, rapporteure de la proposition de loi.
Ce qui caractérise aussi cette industrie singulière, c'est un marketing extrêmement agressif, extrêmement intrusif, avec une attention très particulière pour notre jeune génération, puisqu'on sait aussi que sur les réseaux qu'ils fréquentent plus particulièrement, je pense à TikTok par exemple, c'est des sollicitations permanentes.
Même si la disposition froisse à droite et divise, y compris dans le camp présidentiel, le soutien du gouvernement apporté aujourd'hui inclut le soutien à cette interdiction de la publicité. Et il va falloir tenir bon, souligne le ministre de la Transition écologique.
Parce qu'on va entendre des voix plus ou moins orientées de la part d'influenceurs, de la part de bonnes âmes pour nous expliquer que limiter la publicité, c'est attentatoire à la création ou à la liberté.
Mais pour Christophe Béchu, les coûts cachés derrière les bas prix des entreprises de l'ultra fast fashion justifient d'éviter d'en faire la promotion.
En vendant ces produits à ce prix-là, elles font des profits, mais elles laissent à la planète le fait de devoir trouver les ressources publiques pour aller éliminer les dégâts qui sont causés par leur mode de production. Donc, il manque quelque chose sur la facture. Il manque les coûts de dépollution, les coûts de collecte de manière générale, il manque le coût des impacts.
Pour faire passer ce texte à l'Assemblée la semaine prochaine, la majorité espère glaner les voix qui lui manquent dans les rangs de la gauche et du groupe Liotte, tout en s'interrogeant déjà sur la suite possible pour cette loi si elle arrive au Sénat, où là, la droite est majoritaire.
Rosalie Lafarge, la Cour des comptes appelle à une remise en ordre rapide dans l'organisation et la gestion du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cette structure avait déjà été épinglée en 2023, vous vous souvenez sans doute du scandale du fonds Marianne, censé soutenir financièrement des associations luttant contre les discours haineux et séparatistes. La Cour des comptes avait de son côté commencé son audit bien avant, souligne son premier président Pierre Moscovici, qui confirme des dysfonctionnements et de graves manquements financiers, Anne Fauquemberg.
Ce rapport de la Cour des comptes étrille tout d'abord la gouvernance du comité de prévention de la radicalisation. Cette instance n'a tenu que 3 réunions en 5 ans entre 2018 et 2022 et n'a jamais remis au Parlement le rapport annuel d'activité pourtant prévu par les textes. Le conseil scientifique sur les processus de radicalisation a également connu une activité très réduite selon la Cour des comptes. Mais c'est surtout la gestion défaillante des crédits qui est dénoncée, en particulier ceux qui étaient gérés par le secrétaire général dirigé à partir de 2020 par le préfet Christian Gravel qui a démissionné en 2023 après les révélations sur le fonds Marianne. Le secrétariat général avait en charge environ 4 millions d'euros sur les 75 millions de budget du comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation, la majorité des crédits étant affectés aux préfectures. Mais pour ces 4 millions d'euros, les défaillances sont d'ordre systémique et inquiétante, explique Pierre Moscovici.
Il y a des tas de choses qui manquent. En vérité, on peut décider de donner des subventions sans avoir des documents comptables qui sont obligatoires. On peut ne pas suffisamment contrôler l'exécution même du travail. On peut même ne pas demander que soient remboursées des sommes quand le projet n'a pas été mené à bien. Tout ça, encore une fois, n'est pas de bonne gestion.
Le premier président de la Cour des comptes a effectué un signalement au procureur général près la Cour des comptes et la Chambre du contentieux est en train d'instruire le dossier. Cette procédure s'ajoute à celle du parquet national financier, plus spécifiquement sur le fonds Marianne.
Il y a 3 ans, la plateforme Internet d'affectation des lycées a été modifiée à Paris dans le but d'accroître la mixité scolaire. D'après le comité de suivi dirigé par l'économiste Julien Grenet, les résultats sont là, plus 39% de mixité dans les lycées de la capitale, à l'exception de certains d'entre eux dans le centre et l'ouest de Paris où se trouvent les lycées les plus favorisés. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Alex Kiefer.
L'auteur du rapport sur la plateforme AffleNet nous apprend également que d'ici 2034, la part du privé dans les collèges pourrait dépasser celle du public, ce qui serait inédit, Hakim.
Oui, dans les collèges privés, à Paris, les effectifs représentent 38,6% des élèves, un chiffre qui est même en légère hausse, alors que dans le public, avec la baisse démographique qui a chuté de 30%, le rectorat a dû, dans le même temps, fermer des classes. Des inégalités qui s'expliquent par la liberté de recrutement des établissements privés, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que ceux du public, notamment en termes de mixité sociale, où les élèves défavorisés ne représentent que 3% des effectifs contre 25% dans le public, comme nous l'explique Julien Grenet, le directeur du comité de suivi d'AffleNet.
L'enseignement privé est parfaitement libre de recruter qui il veut. Il n'a pas à prendre sa part d'élèves défavorisés. Je rappelle que l'enseignement privé est financé à hauteur de 76% par l'État et les collectivités locales. Et donc le privé offre aux familles qui le souhaitent la possibilité d'un évitement de collèges publics qui, eux, ne peuvent pas refuser d'élèves, ils doivent prendre tout le monde. Et donc il est bien évident que dans ce type de système, le privé peut paraître très attractif. Et surtout, est-il souhaitable que l'État subventionne ce séparatisme social ? Je ne pense pas personnellement. Donc oui, le privé est attractif, mais parce qu'il déroge aux règles qui s'appliquent au public, et c'est bien ça le problème.
Pour remédier à ces inégalités, l'Académie de Paris va supprimer à la rentrée 250 postes, mais également, dans le public, mais également 50 postes dans le privé, ce qui est extrêmement rare. Valérie Baglin-Le Goff, la directrice de l'Académie de Paris.
Il est important que tous les ans, dans les années qui viennent, et Julien Grenier donne la trajectoire de 2034, que sur la base de la démographie et des prévisions d'effectifs, on puisse garder une place pour le réseau public et pour le réseau privé qui soit conforme à ce que la démographie nous permet d'être.
Enfin, notons qu'avec l'ouest de la France, Paris est la ville où il y a le plus d'établissements privés.
Hakim Kasmi, 18h10, la chronique Demain l'écho se penche aujourd'hui sur notre consommation de poissons. En constante augmentation depuis les années 2000, elle atteint 30 kilos par habitant et par an. Mais comment être sûr que nous ne participons pas à la surpêche qui vide les océans de leurs ressources ? Faut-il moins consommer ? Comment mieux consommer ? Comment aider la pêche durable ? Autant de questions que la poissonnerie en ligne Poiscaille a cherché à résoudre. Reportage d'Annabelle Grelier.
22h, tout juste débarqué du Guilvinec, les premiers camions livrent la pêche du jour. Sous l'œil attentif de Charles Guiriec,
je suis à l'heure, ça va ?
C'est parfait.
Agronome halieutique et fondateur de Poiscaille, fervent défenseur de la pêche durable.
La pêche durable, pour nous, c'est que des navires qui pratiquent des techniques dites douces. Ligne, casier, pêche au filet, filet droit, filet trémaille, pêche en plongée pour les coquilles Saint-Jacques, pêche à pied pour les coquillages. On est en ostréiculture traditionnelle uniquement pour les huîtres, ça veut dire que des huîtres nées en mer, pas du triploïde. Après, c'est la taille des navires. 12 mètres maximum, c'est la définition commune de la petite pêche côtière, aussi bien française qu'européenne. On se rajoute un critère pour les pêcheurs au filet, de 3 marins maximum embarqués à bord des bateaux. On pousse les critères, je pense, bien plus loin que tout ce qui se fait sur le marché en termes de durabilité et de manière aussi transparente.
Dans les entrepôts ou près de Rungis, l'équipe de Poiscaille est à pied d'œuvre. D'abord, les viviers.
Salut Denis !
Ça va ?
Denis, c'est l'infirmier des crustacés. C'est lui qui les regarde tout le temps, qui les bichonne.
Ils vont bien là ?
Ah oui, super bien, ils sont en forme.
Il y a quoi comme crustacés ?
Pas mal d'araignées de mer là.
C'est énorme !
C'est des araignées qui font entre 1,5 kg et 2 kg peut-être.
On vous les envoie vivants ?
Ouais, on les envoie vivants et c'est reçu vivant par le client.
Dans le laboratoire à côté, on écaille, on débite, on lève les filets des gros poissons.
Là, on a du sandre, là, on a du congre, on a vu du bar à l'entrée. Ça, c'est des poissons qui font entre 1,5 kg et 10 kg. On découvre même des thons parfois de 200 kg ici.
Donc là, ils sont quoi ? Vidés, écaillés ?
Les poissons ont déjà été vidés par les pêcheurs à bord des bateaux. Et là, les poissons vont être tranchés ou écaillés et levés en filet.
Emballés dans du papier, ils garniront les paniers de la mer des abonnés de Poiscaille. 21 000 aujourd'hui, qui pourront récupérer dans les 24 heures leurs colis mis en dépôt dans les magasins bio près de chez eux. Du poisson uniquement français, insiste Charles Guiriec, car les Français, il faut le savoir, surconsomment trois espèces principalement importées.
Notre fierté chez Poiscaille, c'est pas de saumon, pas de cabillaud, pas de crevette tropicale. Le thon, il est 100% français, enfin tous les produits sont 100% français. Tous les poissons sont sauvages. Mais c'est vrai que côté consommateur, il y a un vrai truc de dire arrêtons le saumon, le cabillaud et les crevettes tropicales. Et la conviction qui marche aujourd'hui, c'est que en les distribuant rapidement, tous les poissons sont bons. L'idée, c'est ça, c'est pour valoriser toutes les espèces. Bah, il faut vendre le poisson en avance parce que voilà, cette bonite-là, dans une semaine, dans le circuit de distribution classique, elle aura une tête de zombie. Et donc, le consommateur ne l'achètera pas. Alors que déguster là, maintenant, tous les abonnés Poiscaille nous disent « mais c'est extraordinaire, c'est meilleur que tous les thons que j'ai pu manger. » Parce qu'en fait, souvent, ils viennent de très loin, ils ont subi des chaînes logistiques très longues. C'est ça l'intérêt d'être en direct des pêcheurs.
Autre intérêt d'être en circuit court, moins d'intermédiaires et plus d'argent pour les pêcheurs.
Chez Poiscaille, quand vous donnez 25 euros, il y a à peu près 10 à 12 euros qui vont aux pêcheurs. Quand vous donnez 25 euros à la grande distrib, il y a 3 à 6 euros qui vont aux pêcheurs. Donc le partage de la valeur, il est complètement différent. Et c'est l'enjeu de Poiscaille, c'est de dire que les pêcheurs doivent gagner plus d'argent si on veut qu'ils évoluent vers des pratiques plus vertueuses.
Côté consommateur, Poiscaille vend au même prix qu'en poissonnerie et 20% plus cher en moyenne qu'en grande surface. Un choix clairement assumé.
À la différence d'un acheteur de poissons classique, nous, on tient des prix stables à l'année, plus élevés que le marché. au global Poiscaille entre 2017 et 2021 a reversé 1,5 million d'euros aux pêcheurs en plus que s'ils avaient vendu à la criée.
Travaillant aujourd'hui avec 250 pêcheurs, l'entreprise s'engage à leur offrir des prix garantis toute l'année.
Vous pouvez podcaster la chronique Demain l'écho et lire l'article d'Annabelle Grelier sur le site de France Culture. On l'a appris cet après-midi, la police belge a déjoué ce week-end d'un projet d'attentat djihadiste. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin, bonsoir.
Bonsoir.
Selon le parquet fédéral belge, Angélique, c'est une salle de spectacle qui était visée.
Oui, la salle de concert visée était le Botanique. C'est l'une des salles les plus connues de la capitale belge, située dans le centre-ville. Et la date était fixée, selon une source proche de l'enquête. C'était prévu pour dans quelques semaines. Mais à ce stade, il est encore vraiment difficile de déterminer, nous dit-on, le sérieux de ce projet terroriste. Les suspects sont trois jeunes gens, âgés de 15, 16 et 17 ans, proches du milieu islamiste radicalisé. Ils ont été interpellés hier à leur domicile. Ils vivent dans trois localités différentes. Ils pourraient avoir fait connaissance via les réseaux sociaux. Aucune arme ni explosifs n'ont été retrouvés lors des perquisitions. Leurs ordinateurs et téléphones portables sont actuellement en cours d'analyse. Un quatrième suspect a également été interpellé hier, majeur celui-ci. Âgé de 18 ans, il a été en lien avec l'un des membres du trio, mais il est soupçonné dans un autre dossier de terrorisme sur lequel rien n'a fuité à ce stade, mais il est mis en examen pour acte préparatoire d'attentat. On ne sait pas si les deux affaires sont liées. Les quatre garçons ont un point commun, une radicalisation via Internet. Les trois plus jeunes étaient par ailleurs en contact avec d'autres personnes radicalisées ailleurs en Europe, en France notamment. Alors dans quelle mesure ce projet d'attentat dans la salle de spectacle était-il concret ? L'enquête va devoir le démontrer, mais il y avait suffisamment d'éléments inquiétants pour intervenir, précisent les autorités concernées.
Merci Angélique Bouin. Une sanction inédite contre Apple. La Commission européenne inflige au géant américain une amende de 1,84 milliard d'euros pour non-respect des règles de concurrence sur le marché de la musique en ligne. Cette décision fait suite à une plainte déposée il y a 4 ans par la plateforme de streaming musical Spotify. Les Américains veulent-ils mettre le Premier ministre israélien sur la touche ? Ce n'est pas Benjamin Netanyahou, mais Benny Gantz qui rencontre aujourd'hui la vice-présidente américaine Kamala Harris à Washington. Alors certes, il fait partie du cabinet de guerre qui dirige le pays depuis 5 mois, mais c'est aussi le principal concurrent de Bibi. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors selon la presse israélienne, le Premier ministre est furieux.
Oui, les Américains ont haussé le ton hier par la voix justement de Kamala Harris qui n'a jamais été aussi catégorique pour demander un cessez-le-feu et aujourd'hui en recevant Benny Gantz. Benny Gantz est actuellement l'homme politique le plus populaire en Israël. Ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, ce grand colosse aux yeux bleus a rejoint la coalition après le 7 octobre. Il a ainsi fait passer la raison d'état avant ses intérêts politiques sans pour autant abandonner ses convictions. La semaine dernière, il a par exemple défilé avec les familles d'otages et il a rappelé sa volonté de négocier pour parvenir à une trêve. Il y a donc une conjonction d'intérêts entre Benny Gantz et l'administration américaine, alors que Benjamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite rejettent pour le moment tout accord de cesser le feu. Le gouvernement israélien est plus divisé que jamais et les États-Unis jouent clairement la carte de l'alternance contre l'actuel Premier ministre. Ultime affront pour Benjamin Netanyahou. Il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden depuis son arrivée au pouvoir, c'était il y a près d'un an et demi. Son grand rival va lui passer 3 heures tout à l'heure à proximité du bureau ovale. Mais les États-Unis n'ont pas poussé la provocation jusqu'à organiser une rencontre formelle avec le président américain.
Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem pour France Culture. Donald Trump est bien éligible dans le Colorado. La Cour suprême des États-Unis rejette une décision de la justice du Colorado qui avait déclaré l'ancien président inéligible dans cet état du Nord-Ouest en raison de ses actes lors de l'assaut du Capitole. Les 9 juges considèrent que seul le Congrès, et non un État, est habilité à retirer un candidat du bulletin pour l'élection présidentielle américaine. Donald Trump voit là, je cite, « une grande victoire pour l'Amérique ». La valse des prix se poursuit en Turquie. L'inflation a de nouveau accéléré en février. Elle est de 67,1% sur un an, selon les chiffres officiels. Le double, selon des économistes indépendants. Et pour les Turcs, les courses alimentaires virent au casse-tête. Reportage de Marie-Pierre Véro à Istanbul.
Nous sommes dans le marché populaire de Kaïtane, réputé pour ses bons prix. Zélia regarde les étals de mandarines, de salades. Le cabas de cette retraitée reste vide.
L'inflation, c'est pas 68%, c'est 300%. Les prix changent toutes les semaines. L'inflation, on la ressent même tous les jours. Et attendez, après les élections, ce sera encore plus dur. Dans ce marché, ce n'est pas trop cher parce que les produits sont de moins bonne qualité. Mais quand même, j'achète peu de choses. Je voulais des champignons. Quand j'ai vu les prix, les légumes, c'est 25 livres. C'est très cher.
Le ramadan approche et Fadime est venu de la mer Noire faire des provisions.
Nous, on achète de quoi faire le pain, les pâtes à l'avance. Pendant le ramadan, les prix vont flamber. Tout. Ce qui coûte 5 livres va en coûter 10. Ce qui est à 10 livres va passer à 50. Ce qui est à 50 coûtera 100.
Tout à côté, la vendeuse de chaussettes se lamente. Elle a beau rogner sur ses marges, elle ne parvient plus à payer la location de son stand.
Ça fait 2 ans que les prix flambent. Tout est devenu trop cher. Comment on va faire pour la rupture du jeûne? Les tomates, je ne vais même pas les regarder. La viande, on ne sait plus ce que c'est. Les concombres, je n'en mange plus depuis des mois. On ne vit pas, on survit.
Pendant le mois de ramadan, elle s'est arrangée avec ses voisins pour que chacun organise à tour de rôle la rupture du jeûne. Même la mosquée, dit-elle, fait maintenant payer les repas.
Marie-Pierre Véro, correspondante de France Culture en Turquie. La météo sera dominée demain par les averses, mais l'arc méditerranéen sera épargné et profitera de belles éclaircies. Les températures minimales seront en hausse, généralement comprises entre 3 et 7 degrés. Les maximales varieront entre 7 et 12 degrés sur la plupart des régions, entre 13 et 18 autour de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Et tout